Vous êtes avec Radio SBS en français.
On est aujourd'hui dans le programme en français sur Radio SBS avec Fred Cavaillé. Bonjour déjà, premièrement. Votre film, c'est un des films stars du festival cette année, Adieu Monsieur Hoffman. Nous, on a eu la chance de le voir en média preview. C'est vraiment un sujet difficile, compliqué, mais qui va plus loin que juste le sujet de l'histoire et de raconter la guerre.
Oui, bien sûr. Bien sûr, bah, je pense que si le film aussi en France a eu de l'impact sur les gens, c'est déjà ça traite d'une période qui est encore un peu taboue par rapport à notre passé, notre mémoire en France. Et puis c'est aussi un sujet qui a été assez peu traité, c'est-à-dire comment des petites gens et des gens simples et normaux, enfin des gens normaux, se sont mal comportés durant cette période, mais pas par idéologie ou par pour s'enrichir en volant des toiles de maître, des choses comme ça. Je dirais juste pour essayer de s'élever un petit peu socialement et d'obtenir ce qu'ils n'avaient pas, ce qu'ils ne possédaient pas, mais pas forcément des grandes choses. Et ça, ça a parlé aux gens. Et aussi encore plus, c'est-à-dire malheureusement, il y a une résonance très actuelle, c'est-à-dire dans des périodes sombres et terribles comme on peut connaître, quelle est la limite entre le bien et le mal, et comment on doit se comporter face à l'adversité. Donc tout ça a déjà lancé pas mal de débats et fait que, je dirais, il y a un intérêt qui dépassait même le cadre du thriller, on va dire. Alors que le film est quand même avant tout ludique, quand même. Il y a ce sous-texte-là qui est assez intéressant dans la réflexion, mais c'est avant tout ludique. Le film est un film à suspense où le spectateur doit être inquiet par rapport au personnage et savoir quel va être leur destin, quoi.
Alors, si on récapitule, si on rappelle un peu l'histoire du film, donc il y a Daniel Auteuil qui joue dans Monsieur Hoffman, qui est bijoutier à Paris, et il y a les Allemands qui on comprend en sous-jacent, c'est la période de la rafle du Veldiv, et donc en fait la famille de Monsieur Hoffman doit partir, s'en va, lui il décide de rester derrière pour fermer boutique, et il fait un deal avec un de ses employés de dire: je te donne la boutique pour l'instant, ou tu m'achètes la boutique avec mon argent, et quand je reviendrai, tu me rachèteras ma boutique avec mon propre argent. Et ça ne se passe pas forcément comme il l'a voulu.
Exactement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a cette idée. Enfin, lui a vécu déjà avec ses parents. Ils ont dû fuir la Pologne au moment des pogroms et ainsi de suite. Donc, il pressent dès 1941 qu'il a beau être juif français comme sa femme, ses enfants, il ne faut pas rester à Paris. Et faut partir en zone libre, car forcément ça va mal se terminer. Et malheureusement, la suite fait qu'il a raison. Donc il envoie sa femme, ses enfants en zone libre, et lui décide de dire à son employé: on fait comme si tu m'avais acheté la boutique, et quand je vais rentrer, tu me la rends et je t'aiderai à t'installer. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, il ne fait pas ce deal avec la bonne personne, et que ce point de départ, ce garçon qui, au demeurant, est sympathique, hein, plein de bonne volonté, malheureusement, ça va le faire dévier et ça va engendrer un monstre. C'est-à-dire, on lui ouvre une porte, et malheureusement, ça ne va pas le faire monter, ça va le faire descendre. Il va le devenir un vrai danger pour Hoffman, c'est-à-dire à vouloir même jusqu'à lui voler sa vie et lui voler son talent, usurper son talent. Et en plus, et là je laisserai le spectateur découvrir, il va avoir une idée complètement folle d'un deal en parallèle de ce deal: je te cache et moi j'utilise la boutique, quelque chose de complètement fou, et qui va en plus accentuer sa propre folie. C'est-à-dire que le personnage de François, joué par Gilles Lellouche, c'est l'arroseur arrosé, c'est-à-dire mettre en place un système qu'il n'est pas capable d'assumer.
Alors, vous parlez justement de Gilles Lellouche, Daniel Auteuil, on va parler de Sarah Giraudeau un petit peu plus tard, mais cette confrontation Lellouche-Auteuil, ces deux acteurs qui ont vraiment un énorme pédigré tous les deux dans le cinéma français, comment ça s'est passé cette confrontation à l'écran, parce que c'est pas les meilleurs amis du monde, hein, on va le comprendre dans le film, mais c'est quand même deux bêtes de scène quand même.
Ouais, c'était exactement ça. C'est-à-dire, ce que je voulais, c'est faire un couple de cinéma. C'est-à-dire, moi, de par mon âge avancé maintenant, J'ai souvenir comme ça des films des années 70 où il y avait la rencontre de Belmondo, Delon, Lino Ventura, Delon dans Les Aventuriers, des choses comme ça. Et c'était important pour moi, je parlais tout à l'heure du côté ludique et du côté film de cinéma, d'avoir la confrontation de ce qui est à l'heure actuelle les comédiens les plus forts et les plus connus en France de par leur génération, c'est-à-dire la génération de Daniel. Il y a Daniel Auteuil et Gérard Depardieu en France qui sont vraiment au-delà. Voilà. Et de la génération de Gilles, il y a d'autres comédiens, mais Gilles, à l'heure actuelle, est sans doute le comédien phare de aussi sa génération. Et, voilà, et la rencontre des deux était assez formidable. Et d'ailleurs, j'ai d'abord proposé à Daniel et le lendemain, j'ai proposé à Gilles. Daniel m'a dit oui tout de suite. Et Gilles, quand je lui ai dit « lis le scénario, tu vas voir, le personnage est formidable » et ça serait face à Daniel Auteuil, et je savais que j'avais déjà 50% de la réponse. C'est-à-dire, pour Gilles comme pour moi, Daniel Auteuil, c'est un monstre. Et aller, pour Gilles, aller jouer face à ce monstre sacré du cinéma, c'était aller déjà dans la mythologie et dans ce dont il a rêvé quand il rêvait d'être comédien. Moi, j'ai rêvé de travailler avec ces grands comédiens et Gilles rêvait de jouer, donner la réplique à ces grands comédiens. Donc, voilà, en plus d'être des brillants artistes et d'être parfaits pour le rôle, il y avait ce truc intéressant. Et d'ailleurs aussi, du côté de Daniel, ça l'intéressait aussi d'aller, pas se confronter, mais jouer avec quelqu'un de la nouvelle génération et qui est comme ça une espèce de passage de flambeau. Voilà, donc tout ça faisait que, et aussi avec Sarah, on était tous là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire envie de faire un bon film de cinéma, et ça a été, alors que c'est sans doute le sujet le plus difficile, c'est même le sujet le plus difficile que j'ai eu à traiter dans tous mes films, c'est sans doute le tournage le plus heureux et le plus sympathique dans le plaisir de travail.
Vous parlez d'un film de cinéma. J'ai vu quelques interviews de vous, d'ailleurs avec Gilles Lellouche, vous avez fait auparavant. Vous parlez que c'est un vrai film de cinéma, à contrario d'un film de plateforme ou d'un film de télévision. Pouvez-vous nous expliquer ce qui fait la différence aujourd'hui? Parce que peut-être on est un peu préformaté maintenant avec ces plateformes qui sont disponibles partout. Et que là, aujourd'hui, vous parlez que c'est un vrai film de cinéma.
Ouais. Je dirais le fait que le film soit, c'est pas complètement un huis clos, mais il y a assez peu de décors. Les décors ne sont pas nombreux, on est beaucoup en intérieur, donc il y a un travail d'image, de son, et aussi de, je dirais, raconter l'histoire dans les yeux des personnages. Et forcément, les yeux des personnages, de manière très basique, quand vous êtes au cinéma, l'œil de Gilles Lellouche, Sarah Giraudeau, Daniel Auteuil, il fait 5 mètres de large. Chez vous, il est gros comme ça. Donc forcément, vous racontez beaucoup plus de choses dans l'œil de 5 mètres que dans l'œil de 3 centimètres. Et voilà, et tout est décuplé. Et en plus, c'est pareil pour moi, hein. Quand je suis au cinéma, je suis forcément beaucoup plus attentif. Et je suis, c'est beaucoup plus immersif que quand on regarde un film à la télévision, et encore plus sur un écran d'ordinateur. Donc, ce n'est pas la même expérience. Et je dirais que tous mes films comme ça, j'essaye, c'est des sujets universels qui doivent être impliquants pour le spectateur. C'est-à-dire le spectateur se dit à chaque fois comment moi je réagirais et comment moi je me comporterait. Et donc là, au cinéma, 100 fois plus, on est avec eux dans cette cave. Voilà, malheureusement, quand on voit le film, alors il y a des gens qui le verront à la télé, j'espère que ça fonctionne aussi, mais forcément, on est moins avec eux. Et le plaisir de se faire raconter cette histoire est décuplé quand on est dans une salle de cinéma. Après, voilà, un Marvel ou des choses, voilà, forcément, sur mon écran d'ordinateur, c'est vachement moins intéressant qu'au cinéma. Dune, c'est, faut le voir au cinéma. Je dirais que même des films plus intimistes, on prendra plus de plaisir au cinéma, même si je vais pas lutter contre, quand on est metteur en scène, si on fait un film de plateforme ou un film de cinéma, on le fait de la meilleure manière possible et on va pas mettre en scène différemment parce que ça va être vu sur un écran petit. Mais quand même, les films, le meilleur endroit pour les voir, c'est au cinéma. Comme un match de foot, c'est vachement mieux de le voir en réel que chez soi, quoi.
On sent qu'il y a un vrai cri d'amour là pour le cinéma, parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. C'est peut-être bête à dire, mais pour vous, on sent que dans vos yeux, là, je le vois, ça brille, il y a un vrai cri. Ils font que 3 cm sur mon écran. Hein. Mais il y a un vrai cri d'amour pour le cinéma.
Oui, forcément, parce que rien ne remplacera jamais l'expérience de la salle. Après, ça ne veut pas dire que je ne suis pas contre les plateformes. Moi, ce que je trouve formidable avec les plateformes, c'est que ça démultiplie les supports de diffusion. Et ce qui veut dire que ça va démultiplier les films qui vont se faire en réalité. C'est-à-dire, plus vous avez de moyens de diffusion, plus il faut de films et plus des réalisateurs, dont moi, on peut travailler et raconter des histoires. Après, dans tous ces supports, il y a des supports qui sont beaucoup plus... je parlais de jubilation, qui sont plus plaisants et qui sont plus adaptés à ce qu'on va voir. J'ai un vrai amour forcément de la salle et du cinéma, mais je ne suis pas inquiet comme beaucoup, c'est-à-dire que ça ne disparaîtra jamais. Et d'ailleurs, la preuve en est, effectivement, il y a des, c'est plus compliqué pour certains films, mais quand vous arrivez à déclencher l'envie du spectateur, et ben les gens y vont. Le dernier Spider-Man, que je n'ai pas vu, hein, mais fait des chiffres supérieurs à ce qu'on faisait il y a encore il y a 10 ans. Donc, ce qui veut dire que, c'est comme ça depuis le début de l'histoire du cinéma. Si vous proposez quelque chose qui donne envie, les gens se déplacent et les gens sortent de chez eux. Donc je ne suis pas inquiet, il faut juste continuer à faire des films pour les bonnes raisons et donner l'envie d'aller en salle.
Absolument. Si on parle de Sarah Giraudeau, on a déjà dû lui dire 50 000 fois, mais elle est vraiment en train de se faire un prénom dans le cinéma français, parce qu'elle elle vient vraiment d'une lignée aussi de cinéma qui est quand même plutôt conséquente. Mais elle a quelque chose de spécial quand même, Sarah Giraudeau. On l'a vu beaucoup aussi dans Le Bureau des légendes. Hein, elle a quelque chose à l'écran, Sarah Giraudeau.
Oui, elle a une vraie particularité de par la manière d'incarner, sa voix aussi, qui est assez particulière. Et moi, dont je suis vraiment fan, c'est-à-dire qu'elle a ce truc qui est soudé dehors comme ça, qui pourrait amener quelque chose de presque enfantin. En fin de compte, il y a une force intérieure et là, qui était formidable pour le film. Je dirais que c'est forcément des trois celles que je connaissais le moins, parce qu'elle a la filmographie la moins importante. Et elle est extraordinaire d'intelligence de jeu, de qualité artistique, et de sympathie en plus. C'est une immense comédienne. Après, effectivement, les chiens font pas des chats. Hein. Elle a des parents qui sont eux aussi d'immenses comédiens. Elle a sans doute été baignée, même elle était baignée dans ça depuis enfant. Après, ce talent-là, ça s'improvise pas. C'est-à-dire qu'elle a ça en elle depuis tout le temps. Et c'est quelqu'un de tellement, tellement brillant. Et là, son rôle dans Huffman, alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est compliqué, mais le rôle est difficile parce que c'est quelqu'un qui se révèle au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est quelqu'un qui presque devient le héros du film. Elle l'incarne tout en finesse et, comment dire, et elle nous surprend parce que les choses sont là sans qu'on les voit au début.
Oui, tout à fait. Elle surprend jusqu'à la dernière minute du film, d'ailleurs. On ne va pas révéler, mais jusqu'à la dernière minute du film. Juste pour se concentrer sur le sujet en lui-même, c'est un sujet qui était en vous depuis un petit moment, parce qu'on est quand même à des années-lumière de Radin. Mais est-ce que c'est quelque chose qui était en vous depuis un petit moment, quelque chose que vous vouliez faire? Radin, c'est un film avec Danny Boone, on va juste pour les gens qui ne savaient pas.
Oui, effectivement. C'est vrai que j'ai une filmographie qui est très... hétéroclite et une ligne éditoriale un peu large, mais ça rejoint tout à l'heure ce que vous disiez, hein, l'amour du cinéma. C'est-à-dire, ce que j'aime, c'est raconter des histoires et des histoires de cinéma, peu importe le genre. Donc je prends autant de plaisir et je mets autant tout mon cœur quand je fais Radin que quand je fais Pour elle avec Vincent Lindon et Diane Kruger ou Adieu Monsieur Huffman sur des sujets différents. Digressé, j'en ai perdu la question, que je retrouve. Effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. Il y a ça 25 ans, mes jours, mes nuits et mes autres jours, à chaque fois je trouve dans l'ordre du titre, mais un roman formidable qui parle comme ça de de l'épuration et de ce qui s'est des exactions à la libération où les gens se sont improvisés résistants de la dernière heure, ont été tombes des femmes qui n'avaient que seul crime d'avoir être tombé amoureuse d'un Allemand, enfin des choses atroces. Et je dirais un pan de l'histoire, comme les gens qui sont mal comportés sous l'occupation, qu'on a très vite mis de côté. Et alors, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais le cinéma français a très peu traité de ce sujet. C'est-à-dire des gens qui se comportent mal. Il y a un film qui s'appelle La Combe Lucien, Au revoir les enfants de Louis Malle. Enfin, il y a très peu de films. Ils se comptent sur les doigts d'une main, je pense. Et donc, ce sujet-là m'intéressait. Et donc, il y a longtemps que dans un coin de ma tête, je pensais à ça. Et quand je vois la pièce de Jean-Philippe Daguerre, qui ne traite pas de ça, mais qui me donne le prétexte pour adapter et prendre une direction différente et parler de ce sujet, de ces gens qui, non par idéologie, mais simplement par pas du gain, mais encore ridicule, ont été jusqu'à dénoncer et envoyer à la mort leurs voisins de palier, des fois juste par jalousie ou qui soient vraiment le plus bas de l'âme humaine, on va dire. Ce sujet-là me passionne. Comment quelqu'un de normal peut d'un seul coup devenir un monstre.
Absolument, absolument. En tout cas, merci, c'est sympa de vraiment de vous parler et de pouvoir parler de ce film qui est vraiment un très, très, très beau film. Fred Cavaillé, merci.
Merci à vous.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.